France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Il est beaucoup question d'héritage, de mémoire et de filiation dans le nouveau roman d'Olivia Rosenthal qui paraît à l'occasion de cette rentrée littéraire 2019 et ça ne surprendra pas les connaisseurs de son œuvre. Éloge des bâtards, c'est l'histoire d'un groupe de résistants, de réfractaires, on dirait plus volontiers peut-être aujourd'hui de zadistes ou de désobéissants. Dans une certaine urgence, et un peu comme si leur combat était d'ailleurs déjà perdu, ils tentent de coordonner leurs actions dans la ville. Ils entendent occuper les derniers espaces de liberté face aux services de la ville, très intrusifs, face à des milices dont on ne sait à peu près rien. Ils tentent de s'organiser pour, par exemple, saturer l'espace urbain qui semble autour d'eux défiguré de signes invisibles. Ils prônent le règne du désordre et de la poésie, à moins que ce ne soit le règne des bâtards. Bonjour Olivia Rosenthal.
Bonjour.
Votre roman L'éloge des bâtards est publié aux éditions Verticales, il le sera cette semaine, je crois, mercredi. La menace qui pèse sur les personnages de votre roman, sur ce groupe de 9 personnages sur lesquels on va revenir, elle n'est pas précisée, mais finalement peu importe, parce que comme bien souvent chez vous d'ailleurs, le principal problème qui se pose à eux, c'est un problème d'identité.
Oui, c'est vrai que la menace reste un petit peu en arrière. Et en même temps, le livre commence avec cette menace, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de construire une angoisse de départ contre laquelle ces personnages doivent lutter, et petit à petit de voir comment, finalement, ils vont bifurquer. Et je crois que, oui, la littérature, c'est aussi ça, ce sont des bifurcations, c'est-à-dire qu'on croit qu'on va lire quelque chose qui est une espèce de roman d'action, et en fait, on va lire complètement autre chose, donc je préfère prévenir tout de suite les lecteurs.
Il n'y a pas beaucoup d'action, mais il se passe énormément de choses. Cette angoisse du départ, Olivia Rosenthal, elle reste jusqu'au bout.
Enfin, elle reste jusqu'au bout, oui,
ça
j'espère.
Se passe la nuit.
Ouais, j'espère. Ouais, c'est un livre qui se passe la nuit. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on croit qu'on va sur une piste, et puis on va sur une autre piste, et puis sur une autre piste. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'intéressait beaucoup, de déplacer comme ça le lecteur vers un endroit auquel il s'attend pas. Et par ailleurs, sur cette menace, quand même dire une chose, c'est que on pourrait penser qu'il s'agit d'un monde un tout petit peu anticipé, c'est-à-dire qui est dans quelques années, mais je tiens à dire que c'est le monde dans lequel on vit déjà, et c'est pas du tout un roman d'anticipation, c'est simplement nous ici à Paris, peut-être on se rend pas compte, mais il y a des villes du monde dans lesquelles c'est déjà ce que je décris. Il y a beaucoup de villes du monde comme ça, il suffit de penser à des villes asiatiques, des très grosses villes, et dans lesquelles la surveillance est à l'œuvre, dans lesquelles la vie est entièrement verticale, dans lesquelles il n'y a pas d'espace disponible. Donc au fond, moi j'ai fait que décrire le monde dans lequel je vis.
Ils sont constamment surveillés, effectivement, ces 9 personnages dont Lily, la narratrice. Il y a aussi Sturm, Masha, Clarisse, Fox, Gail, Phyllas, Foul et Oscar. Ils se retrouvent donc la nuit pour mettre en place leurs actions, surtout pour se confier les uns aux autres. Et on voit assez vite que leur problème, c'est l'enfance. Leur problème, c'est la filiation. Leur problème, c'est la famille. La famille, c'est le maillon faible. Un peu comme dans l'Armée des Ombres, il y a cette citation. Il y a beaucoup d'ailleurs de rappels au cinéma dans votre livre Éloge des bâtards, Olivia Rosenthal.
Oui, donc Éloge des bâtards, comme son nom l'indique, c'est quand même une histoire de bâtards. Donc j'ai envie de dire que j'aime les bâtards et que c'était le point de départ de mon livre. Aussi de réhabiliter le mot et ceux qui sont considérés comme bâtards, c'est-à-dire ceux qui ont des origines incertaines, sachant qu'au fond, cette origine incertaine, elle est le point de départ pour moi de la littérature, au fond. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un livre ? C'est l'histoire d'un personnage qui cherche ses origines, qui est en quête. Donc ça, c'est le point de départ et c'est très important puisqu'au fond, ces bâtards vont se mettre à parler les uns avec les autres, vont se raconter les uns aux autres leur propre histoire, avec cette idée aussi que finalement, raconter, parler à quelqu'un, c'est aussi une activité subversive. Au fond, c'est quand on se raconte les uns aux autres des histoires qu'on devient subversif, quand on prend le temps de ce récit. Et donc la subversion, elle est dans l'action politique, mais elle est aussi dans le fait de parler, de prendre ce temps-là. Donc ça, c'est très important dans le livre, c'est-à-dire effectivement la place du bâtard comme un marginal absolu, comme celui qui, depuis le départ, est obligé de s'arranger avec une situation qu'il n'a pas choisie et dans laquelle il se retrouve, il n'est pas à sa place en fait. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il n'est pas à sa place, il va devoir produire des réponses qui sont toujours des réponses extrêmement inventives. Il doit inventer quelque chose qui lui permette de trouver sa place.
Mais c'est ça, justement, l'avantage. Vos bâtards, ils sont un peu eux-mêmes en friche, Olivia Rosenthal, et ça pose évidemment le contexte de la ville. Vous disiez la ville sous surveillance, mais c'est aussi la ville qui croit, la ville qui ne laisse plus d'espace à l'utopie. Alors, évidemment, pour ça, les bâtards, c'est très bien. C'est là où on peut réinventer quelque chose à partir d'une identité qui est pas vierge, mais qui est problématique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont, en parlant de leur propre histoire, au fond, ils vont réinventer le monde dans lequel ils aimeraient vivre, hein, petit à petit. Et je dirais que voilà, l'action politique, elle passe par ça, par le fait de parler, par le fait d'échanger. Donc, c'est un livre dans lequel tous les personnages se mettent à parler et à raconter leurs histoires croisées. Et j'avais envie d'un modèle comme ça qui est, je dirais, à la fois qui vient d'histoires très anciennes, le Décaméron ou l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, c'est-à-dire des bouquins dans lesquels il s'agit des personnages se retrouvent dans un moment difficile et ils se mettent à parler, comme si la parole était une forme de consolation. Et puis aussi des livres joyeux, des livres comme Jacques le Fataliste, ou voilà, où il s'agit à chaque fois de penser à quelque chose et de dire, ah tiens, j'ai une histoire à te raconter, ah oui, mais cette histoire me fait penser à une autre histoire, et ainsi d'avancer dans un endroit qui est pas du tout celui de la politique au sens strict, mais qui devient quand même finalement au fond quelque chose de politique.
Et voilà qui vous rapproche, vous, auteur, de ce combat-là. Ce sont vos mots, après tout. Et puis Lily, la narratrice, qui fait partie de ce groupe, est un peu votre envoyée au sein de ce groupe. D'ailleurs, elle entend les mots avant qu'ils soient prononcés. Il y a une impossibilité du travail d'écrivain, ou en tout cas une difficulté du travail d'écrivain, parce que Lily, quand elle entend ces mots et quand il faut qu'elle les retranscrive, elle dit c'est compliqué. Alors elle monte des murs parce qu'il y a un problème qui peut peut-être se poser au niveau psychiatrique pour elle. Parfois, ces murs s'écroulent et là, c'est très très difficile.
En fait, le truc, c'est que Lily, elle a un pouvoir très bizarre, un pouvoir de télépathie. Donc, c'est ça qui inscrit le livre dans un endroit un peu fantastique. Et au fond, oui, c'est une sorte de double de l'écrivain. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? C'est quelqu'un qui entend des voix, en fait.
Et qui fait de la politique.
Alors, qui fait de la politique, qui entend des voix et qui essaye d'entrer, en fait, dans le corps des autres et d'essayer d'imaginer ce qui se passe dans le corps des autres. Donc, au fond, Lily, c'est ça, c'est quelqu'un qui a ce pouvoir-là. Donc, j'ai essayé d'imaginer le danger que ça représente d'avoir ce pouvoir de télépathie. Le fait que entrer dans le corps de l'autre et dans l'esprit de l'autre, ben oui, c'est bien par moment, mais par moment, ça empêche l'autre d'exister. Donc, voilà, elle est dans ce rapport au bâtard où elle essaye d'être à l'écoute de ce qu'ils sont et de ne pas entrer dans leur corps avant eux. Et donc, elle est obligée, effectivement, d'ériger des murs de temps en temps pour ne pas entrer dans le corps de l'autre. Et là, comme vous parliez de cinéma, j'ai vraiment pensé à un film qui a été très important quand j'étais enfant, qui est Le Village des Damnés. Et dans ce film, Le Village des Damnés, justement, il y a un personnage qui est le professeur, qui est obligé de lutter contre des enfants qui sont extrêmement dangereux parce qu'ils ont le pouvoir de télépathie. Et donc, pour lutter contre eux, il est obligé d'ériger des murs, justement, et de se protéger d'eux. Donc, il y a le cinéma derrière qui est très important. Et au fond, le personnage de Lily, oui, c'est une espèce de figure de l'écrivain qui est entouré par des bâtards, qui n'est pas bâtard lui-même et qui doit comprendre un petit peu la place qu'elle a parmi ces bâtards. Pourquoi elle est avec eux ? Qu'est-ce qu'elle a à faire avec eux ? Qu'est-ce que c'est que ce groupe bizarre qu'ils forment ? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la ville ? C'est un peu les questions que pose aussi le livre.
On va revenir sur l'identité de Lily, parce qu'effectivement, il y a quelque chose aussi à creuser là. Les histoires vécues ou racontées font un bruit de cloche à l'intérieur. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça résonne dans ma tête. Des voix me parlent. Pourquoi faudrait-il que j'obéisse à ce qu'elles exigent ? Ça, c'est Lily qui s'exprime. Il y a toujours cette idée que l'auteur ne doit pas être en situation de surplomb. Lily, si on la compare à l'auteur, alors je ne sais pas, mais l'auteur doit cheminer avec le lecteur. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup, Olivia Rosenthal.
Oui, c'est-à-dire que...
Pas uniquement dans ce livre.
Oui, je pense que c'est important de l'égalité, en fait. L'égalité entre celui qui écrit et celui qui lit. Et cette égalité des intelligences, c'est-à-dire vraiment de faire confiance au lecteur. Et c'est aussi quelque chose qui traverse mon travail au préalable. C'est-à-dire que quand je commence un livre aussi, je fais beaucoup d'entretiens avec des gens. Donc là, par exemple, je me suis entretenue avec des bâtards... j'ai entendu des histoires. Et c'est très important de suivre le fil que la personne avec qui vous parlez va vous proposer et de ne pas imposer quelque chose. C'est en ça d'ailleurs, je pense que voilà, que quand on est écrivain, à la différence peut-être du journaliste, c'est que finalement on n'attend rien d'un entretien, on se laisse conduire. Et c'est très difficile en fait de se laisser conduire. Et donc c'est un travail que j'ai appris à faire et que j'essaye de continuer ensuite dans le livre, c'est-à-dire à la fois de me laisser conduire parce que j'ai entendu et aussi d'offrir au lecteur une place parce que au fond ce livre, comme vous dites, comme le lieu est, on sait pas très bien où ça se passe, on sait pas très bien ce qu'ils font exactement, au fond c'est aussi un espace de projection pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il a la place pour imaginer la ville qu'il a envie d'imaginer, pour imaginer ce que font exactement ces personnages, pourquoi ils sont ensemble, puisque une des questions qui se pose vraiment dans le livre, c'est pourquoi ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font exactement, qu'est-ce qui les unit. Et en fait, ce qui les unit, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas le fait d'être un activiste dans la ville, c'est beaucoup d'autres choses qu'on va apprendre en lisant le livre.
C'est pas uniquement voilà, réinventer des espaces utopiques, c'est pas uniquement monter toutes ces opérations dont on dira un mot tout à l'heure, c'est surtout voilà, effectivement être ensemble, c'est faire groupe. Alors vous invitez donc le lecteur à cette thérapie de groupe. Il y a une dimension psychanalytique derrière aussi ces assemblées nocturnes où on raconte beaucoup de soi et évidemment de...
Ah, vous pensez aux alcooliques anonymes, c'est ça
qui l'a invité. Non, pas forcément.
Ouais, en général, dans l'activité psychanalytique, c'est plutôt de un à un, je pense. Mais, et là, ce qui me plaisait, en fait, c'était aussi ce que j'avais jamais fait avant dans mes livres, c'est vraiment d'imaginer un groupe où tout le monde écoute les autres et parle. Donc, il y a vraiment un côté un petit peu... il y a une caisse de résonance et puis j'ai voulu donner de la place à la parole directe. Donc, c'est un livre qui est presque entièrement, pas seulement, mais presque entièrement écrit en style direct, c'est-à-dire que voilà, les personnages s'adressent les uns aux autres, et j'avais envie d'inventer ça, c'est-à-dire de donner de la place au dialogue. Qu'est-ce qui se passe dans un livre quand on essaye d'écrire des dialogues où les personnages s'inventent les uns par rapport aux autres en réagissant, et voilà, toute cette dimension d'écriture a été très importante pour moi.
Et vous pouvez vous laisser surprendre aussi parce qu'il y a tout ce rapport entre l'individu et le groupe. Alors ça, c'est aussi un des thèmes récurrents dans votre œuvre, Olivia Rosenthal. On peut très vite en sortir du groupe, on peut très vite se mettre en marge. Il y a des risques. Là, on en fait partie, on n'en fait plus partie. On mène une action qui, parfois, peut être jugée peu convaincante par les autres. Là, en l'occurrence, et du coup, on est en marge du groupe. Ça, c'est des questions qui vous taraudent.
Oui, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que la constitution d'une petite communauté. Donc, j'avais déjà écrit un livre il y a très longtemps qui s'appelait « Mes petites communautés », qui était très différent, mais c'était quand même comment l'individu s'arrime à un groupe. Et au fond, dans ce livre-là, d'Éloge des bâtards, finalement, le groupe ne peut se constituer qu'à partir du moment où chacun prend la parole en son propre nom. C'est un peu ça le... Et cette idée que l'action n'aura du sens qu'à partir du moment où chacun investit sa propre personne, son individualité, raconte quelque chose de son identité, sachant que, oui, ses identités sont fluctuantes, sont incertaines, mais c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire comment on arrive à s'engager en tant que soi-même, et c'est la condition même de l'existence du groupe.
Et ça fout la frousse à Lily, la narratrice.
Bah oui, parce qu'elle, elle est...
Elle a un problème, elle n'est pas bâtarde, comme vous disiez tout à l'heure. Son identité à elle, alors elle est écrivaine, et elle est arrière-petite-fille de juifs déportés. La question de l'héritage, évidemment, pour elle, se pose tout autrement. Elle n'en veut pas de cet héritage.
Alors, je ne sais pas si je dis vraiment qu'elle est écrivaine. Peut-être, j'essaye de... Enfin, en tout cas, elle...
Elle raconte comment ses livres peuvent être...
En tout cas, oui.
Joué dans son voyage en Allemagne, notamment.
Son problème à elle, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec ce groupe. Enfin, c'est une question qui aussi m'intéressait en tant que personne. C'est-à-dire, il se trouve que, oui, dans ma vie aussi, moi, je suis entourée par des bâtards qui sont mes proches, mes très proches. Et ces bâtards-là, pourquoi est-ce que je suis allée vers eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés vers moi? Et voilà, j'essaye de questionner cette chose-là. Qu'est-ce que le bâtard, celui qui a une origine incertaine, peut apporter? Qu'est-ce qu'il offre? Et donc Lily, elle est en train de se poser ces questions. Qu'est-ce qu'elle fait là avec ce groupe, elle qui est si différente? Et finalement, elle va raconter quelque chose qui la lie de manière assez forte à ces bâtards, parce qu'elle aussi, on va dire, d'une certaine manière, elle est une sorte d'orpheline, au fond.
Et c'est une demande de liberté, du coup, qu'elle formule en disant qu'elle veut se passer de cet héritage.
Oui, parce que...
Et de cette filiation.
C'est ça, elle cherche vraiment à défaire un héritage dont elle a évidemment hérité sans le décider, et elle essaye de construire quelque chose de différent par rapport à ça. Et je pensais à tous ces livres dans lesquels des auteurs cherchent leurs origines ou vont remonter à leurs arrière-grands-parents et vont chercher des archives, etc. Et j'avais un peu envie, mais ça c'est un peu mon esprit de contradiction, de prendre le contre-pied au fond. C'est-à-dire, oui, c'est très bien d'aller chercher dans les archives d'où vient ses arrière-arrière-grands-parents, mais et si on ne le faisait pas? Et si on choisissait un autre chemin? Et si c'était aussi une autre manière d'être au monde qui était tout aussi forte que... Et donc, ça, c'était aussi une sorte de manière de contester tous ces livres qui, par ailleurs, peuvent être très intéressants, mais qui sont cette espèce de rumination de la généalogie. Et j'avais envie de sortir de ça, en fait.
Mais c'est aussi une question peut-être de génération, et une question de dire, on passe maintenant à autre chose, Olivier Rosenthal ? Est-ce qu'on peut le prendre comme ça ?
Oui, oui, peut-être. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est un strict parcours individuel. En fait, je ne sais pas si je crois à des choses très générales. Je pense que, et c'est ça que j'essaye de raconter dans le livre, c'est comment chacun s'arrange avec sa propre histoire, qu'est-ce qu'il en fait, comment il la transforme, quelle ruse il utilise pour essayer de s'en sortir. Et donc Lily, comme les autres, elle a aussi des moyens pour constituer son identité. Elle est obligée de ruser aussi, elle, avec le réel, d'une autre manière. Et donc c'est ça qu'ils essayent de se raconter les uns aux autres. Comment ils s'en sont tirés et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là tous ensemble.
On piraterait les annonces, sonneries et enregistrements automatiques diffusés dans la gare, et on ferait entendre à leur place les très courtes biographies de bâtards volontaires. Ça fait partie des actions qui sont imaginées. Parfois, d'ailleurs, et assez souvent, c'est au conditionnel. On essaierait de faire ça. On accrocherait aux caddies des moteurs téléguidés qu'on déclencherait tous ensemble pour que les caddies quittent les supermarchés et s'auto-tamponnent sur la dalle, comme dans une immense danse macabre. Il y a beaucoup de poésie aussi. Pas question d'être assigné à résidence pour vos bâtards dans Éloge des bâtards, Olivier Rosenthal. Le hasard doit être la condition d'une vie possible, et notamment dans la ville.
Oui, oui, c'est donc ces actions-là, ce sont à la fois des actions politiques et des actions poétiques, mais des actions poétiques au sens fort du terme, c'est-à-dire ce sont des tentatives d'effraction, au fond. Il se trouve que j'ai vu il n'y a pas longtemps une exposition de Ernest Pignon-Ernest en Avignon, et justement, à un moment, il parle de ces sérigraphies de Rimbaud qu'il avait mises dans la ville, et il explique que oui, qu'est-ce que c'est que la poésie ? La poésie, c'est pas un jeu formel, la poésie, c'est un risque qu'on prend, et c'est une effraction dans la ville, c'est une faille, et en fait, c'est un peu ça que j'avais envie de raconter, c'est comment la poésie s'insinue, en fait, dans les endroits... dans les failles, et qu'est-ce qu'elle permet de reconstruire. Et c'est donc la poésie au sens fort, c'est pas la poésie, vous voyez, au sens d'un objet formel. Et donc là, ça m'a pris beaucoup de temps, hein, d'imaginer toutes ces actions que ces personnages pouvaient faire dans la ville. Alors, il y en a certaines qu'ils ont faites, et il y en a certaines qu'ils aimeraient faire. Donc, il y a toute cette distance-là aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose comme une utopie, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la ville, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on a déjà fait dans la ville. Donc, ce ne sont pas seulement des utopistes, hein, ce sont vraiment des activistes, comme vous disiez au début.
Merci, Olivier Rosenthal. Votre nouveau roman, dans le cadre de la rentrée littéraire, paraît cette semaine, donc aux éditions Verticales, Éloge des bâtards.